الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى يبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. ابن القيم رحمه الله تعالى، après avoir cité les quatre qualités à acquérir pour pouvoir être un guide pour les gens pieux, il nous cite ici le discours de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dans l'introduction de son livre « La réfutation à la thèse des Jahmites ». Il dit « Louange à Allah qui à toute époque, exemple de messager, institue un ensemble de savants pour appeler ceux qui se sont égarés au droit chemin, en endurant leurs offenses, qui rendent la vie aux âmes mortes grâce au livre d'Allah, et qui, par la lumière divine, redonnent la vue à ceux qui sont aveuglés. Combien de victimes du diable ont-ils sauvées? Que d'égarés ont-ils guidés? Quelle bonne influence ont-ils eu sur les gens? Et quelles vilaines conséquences les actions des gens ont pu avoir sur eux? Ils défendent le livre d'Allah de ceux qui le dénaturent démesurément, du plagiat, de ces imposteurs et des interprétations qu'en donnent les ignorants. Ceux qui ont hissé les étendards de l'hérésie, de l'innovation, et lâché les brides de la discorde, ils divergent sur le livre et transgressent ses directives. Ils s'en écartent tous sans exception. Ils partent de l'islam et du Coran sans la moindre science et usent de ces équivoques des paroles quand ils s'expriment. Ils usent des sens équivoques des paroles quand ils s'expriment. Ils trompent les ignorants en abusant des ambiguïtés. Nous nous réfugions près d'Allah contre les méfaits de ceux qui égarent. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, à son époque, il y a eu des innovations et des innovateurs qui ont combattu les gens de la sunna. Et parmi les pires choses, certaines personnes disaient que le Coran ne vient pas d'Allah, que le Coran n'est pas la parole d'Allah, et qu'Allah n'a pas pris Ibrahim alayhi salam en Khalil, et qu'Allah n'a pas d'attribut. Et ils ont renié beaucoup de choses qui ont été citées dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils opprimaient les savants de la sunna et les contraignaient à prononcer de mauvaises paroles. Et parmi ceux qui se sont montrés fermes, se sont accrochés sur la sunna, il y a l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, au point où il a été fait prisonnier, il a été emprisonné et torturé afin de lui faire dire des paroles des gens de l'innovation. Mais il a refusé et a préféré endurer et être torturé plutôt que de dire une parole sur le Coran ou sur Allah ou sur le message d'Allah dont il n'avait aucune preuve. Rahimahullah ta'ala. Il a donc écrit une réfutation en commençant par cette introduction. Il a remercié Allah Celui qui, à chaque époque dans laquelle il n'y a pas de prophète, a mis des gens de science qui appellent les égarés à la droiture. Donc, fi kulli zamanin fatratin min ar-rusul, c'est-à-dire à chaque époque où il n'y a pas eu de messager, soit entre l'envoi de deux messagers, soit dans une période où la science qui a été transmise par le messager commence à disparaître. À chacune de ces époques, Allah tabaraka wa ta'ala facilite aux gens des gens de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple qu'Allah azza wa jal envoie à la tête de chaque siècle une personne pour revivifier sa religion. Une personne pour revivifier sa religion. Comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ou bien Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ou parmi les contemporains Al-Allama ibn Baz, ou bien Ibn Uthaymeen, ou bien l'Albani rahimahullah jami'an. Donc c'est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous, la présence des gens de science. Puis l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a cité de leurs actions, a cité leur rôle et les grands biens qu'ils amènent sur cette communauté. Yad'ouna man dalla ila al-huda. Ils appellent ceux qui se sont égarés au droit chemin. Donc parmi les missions des gens de science, ad-da'watu ila Allah. Wa yasbiruna minhum 'ala al-adha. Et toute personne qui prêche avec science sur la vérité trouvera des détracteurs, trouvera des difficultés dans ce chemin. Car la plupart des gens sont égarés et suivent leur passion. Donc, yasbiruna minhum 'ala al-adha, ils endurent et patientent sur leur nuisance. Yuhyuna bi kitabillahi al-mauta. Ils redonnent vie aux morts avec le livre d'Allah, avec le Coran. Les gens de science font revivre par la permission d'Allah Azza wa Jal les cœurs avec le Coran. Fabikitabillahi Azza wa Jal Hayatul Qulub. Donc avec le livre d'Allah, le Coran, il y a la vie des cœurs. Allah nous dit en Coran, Awa man kana mayta fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Est-ce que celui qui était mort, que nous avons fait revenir à la vie, puis lui avons assigné une lumière avec laquelle il marche entre les gens? Il était mort bil kufr. Il était mort de par la mécréance dans laquelle il vivait. Son cœur était mort, car le cœur ne peut vivre qu'avec le tawhid et qu'avec le Coran. Fa ahyayna ay qalbahu bil iman. Nous l'avons fait revivre avec quoi? Avec la foi. Nous avons fait revivre son cœur avec l'iman, avec la foi, avec le Coran. Et il a été guidé pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Binurillah ahl ama. Il redonne la vue aux aveugles de par la lumière d'Allah. Ou avec la lumière d'Allah. Il redonne la vue aux aveugles. Nurullah, c'est-à-dire la révélation, le Coran. C'est la révélation. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Allah nous dit, oh vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à retrouver la vie. Donc de répondre à Allah, de répondre au message d'Allah, de se soumettre à Allah, d'obéir au messager, dans cela il y a la vie des cœurs. De la même façon que la terre ne peut vivre qu'avec l'eau qui tombe sur elle, le cœur ne peut vivre si ce n'est avec le livre d'Allah, si ce n'est avec le Coran et son rappel. Et dans le verset passé, Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ce qui redonne la vie, Qatada rahimahullah ta'ala nous dit, hadha huwa al-Qur'an. Il dit que c'est le Qur'an, c'est avec le Qur'an qu'il y a la vie et la vie des cœurs. Et Allah Azza wa Jal a cité en parabole et a comparé l'effet du Qur'an sur les gens et sur les cœurs à l'effet de la pluie sur la terre. Le Coran donne la vie au cœur, tout comme la pluie donne la vie à la terre. Il nous dit dans le Coran, Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal-ladhina utul kitaba min qablu fa tala 'alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى nous dit, le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont eu la foi que leur cœur s'humilie devant le rappel d'Allah et ce que nous avons fait et de ce que nous avons révélé comme vérité, et que leur cœur ne soit pas, ou bien qu'ils ne soient pas, comme ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ils ont trouvé le temps long, alors leurs cœurs se sont endurcis. Et la plupart d'entre eux sont des pervers, et beaucoup parmi eux sont des pervers. Puis Allah nous dit, sachez qu'Allah redonne la vie à la terre après l'avoir fait mourir. Donc on nous parle du Coran et de l'effet du Coran sur les gens, puis on nous parle de ce qui fait revivre la terre, qui est l'eau. Donc le Coran fait revivre les cœurs, tout comme l'eau fait revivre la terre morte. Wa nurullah al-wahy. La lumière d'Allah Azza wa Jal, c'est la révélation, c'est le Coran. Qala Allah subhanahu wa kadhalika wahayna ilayka ruham min amrina. Ma kunta tadri ma al-kitab wala al-iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah Azza wa Jal nous dit, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا رُوحًا وَهُوَ الْقُرْآنُ وَسُمِّيَ بِالرُّوحِ لِأَنَّ بِهِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَحَيَاةُ الْحَقِيقِيَّةِ لِلنَّاسِ. قَالَهُ الضَّحَاكُ. C'est ainsi, donc Allah nous dit, c'est ainsi que nous avons révélé sur toi une âme émanant de nous. Ici, il s'agit du Coran. On a appelé le Coran ruh, une âme. Pourquoi? Car avec le Coran, il y a la vie des cœurs. Il y a la vie réelle pour les gens. Tu ne savais pas ce qu'était le livre, ni la foi. Mais on t'a accordé une lumière avec laquelle tu guides qui tu veux parmi nos serviteurs. Et l'un des pieux prédécesseurs, ou l'un des anciens, a cité l'exemple des savants parmi les gens de leur communauté, les gens du peuple, les gens de la masse. Il dit, c'est à l'image d'un groupe de personnes qui se trouvent dans un endroit effrayant, où il y a toutes sortes de choses dangereuses. Le chemin est dangereux, ils sont plongés dans la nuit, il y a des serpents, et ils ne savent pas comment sortir de cet endroit, ni vers où se diriger. C'est alors qu'il y a un homme qui vient avec une lanterne, qui éclaire le chemin, qui marche et leur montre le chemin. Alors ils viennent et suivent ses traces. Ben c'est l'exemple des savants parmi les gens de la masse. Puis l'auteur nous dit, فَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لِإِبْلِيسَ قَدْ أَحْيَوْا وَكَمْ مِنْ ضَالٍ تَائِهٍ قَدْ هَدَوْا. Combien de victimes du diable ont-ils sauvées? Car celui qui suit ses passions, qui est ignorant et s'éloigne d'Allah Azza wa Jal, il a refusé d'obéir à Allah, de suivre le prophète sallam. Il s'est donc soumis au shaitan et à ses passions. Ce sont des victimes du shaitan. L'auteur nous dit, ou bien l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous dit, combien de victimes d'Iblis ils ont sauvé? Combien de personnes étaient dans l'égarement, dans le shirk, dans le kufr ou dans l'innovation? Et suite au conseil de savants de la sunnah, ils se sont repentis, revenus à la droiture. Et vous connaissez tous l'histoire de celui qui a tué 99 personnes puis a voulu se repentir. Il a donc demandé à ce qu'il soit orienté, on l'a orienté vers un dévot, une personne pieuse, mais qui n'avait pas de science. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit non. Alors il s'est fait lui aussi assassiner, il a complété avec ce meurtre-là le nombre de sang. Puis il a demandé la personne la plus savante sur terre, on l'a orienté vers un savant, et il lui a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que je peux encore me repentir? Le savant lui a répondu avec science. Il l'a orienté et sauvé du shaitan par la grâce d'Allah. Il lui a dit, qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir? Mais tu es sur une mauvaise terre. Déplace-toi et rends-toi dans tel endroit. Tu y trouveras des gens qui adorent Allah d'un culte sincère. Adore Allah avec eux. Et ne reviens pas sur cette terre. C'est une terre qui est mauvaise. À mi-chemin, la mort l'a atteint. Et au final, Allah Azza wa Jalla l'a pardonné et lui a accordé son paradis. Quelle fut la cause de son entrée au paradis? Les conseils d'une personne de science. C'est ainsi qu'est l'effet bénéfique des savants sur les gens de la masse. Et combien d'égarés ont-ils guidés? Puis l'auteur nous parle des effets bénéfiques des savants, ou plutôt l'imam Ahmed, des effets bénéfiques des savants sur la masse, et du manque de reconnaissance de certaines personnes envers les savants, et du manque de comportement de certaines personnes envers les savants. Il nous dit, فَمَا أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَى النَّاسِ وَمَا أَقْبَحَ أَثَرَ النَّاسِ عَلَيْهِمْ. Quelle bonne influence ont-ils eu sur les gens? Et quelles vilaines conséquences les actions des gens ont pu avoir sur eux? C'est-à-dire que amène le bien aux gens? La science, l'encouragement dans le bien, l'orientation, la réponse à leurs problèmes, et l'essor de la tristesse et des soucis. Alors que les gens de la masse qui ne connaissent pas la valeur des savants, leur manque de respect, ils ne sont pas reconnaissants envers eux, ils ne les soutiennent pas dans leurs prêches, ils parlent sur eux en mal, les dénigrent, les insultent, et toutes sortes de mauvaises choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à cet effet, « Laysa minna man lam yarham sagirana, wa yuqir kabirana, wa ya'rif li ulama'ina haqqah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « N'est pas des nôtres celui qui n'a pas de pitié envers les petits, ni de considération envers les personnes âgées, ni ne reconnaît les droits de nos savants. » Il ne fait pas partie d'eux. C'est-à-dire qu'il est tombé dans un péché qui est grave. Et l'histoire d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, lorsqu'il est parti faire da'wah au Khawarij, il est venu à discuter avec eux, à dialoguer avec eux, et par sa cause, un tiers ou deux tiers des Khawarij ont fait tawbah. Il leur a posé trois questions. Avec science, il a discuté avec eux, et un grand nombre parmi eux se sont repentis. فَمَا أَحْسَنَ أَثَرَهُمْ عَلَى النَّاسِ. Ils enseignent aux ignorants, font le rappel à ceux qui sont distraits, orientent ceux qui sont égarés, alors que les gens de la masse qui ne connaissent pas la valeur des savants, eux, se comportent mal. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite que parmi les actions des gens de science, il y a le fait de réfuter les gens du faux et d'éclaircir les ambiguïtés des gens de l'égarement. Il nous dit « Anfuna an kitabillahi tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin ». Ils défendent le livre d'Allah de ceux qui le dénaturent des mesurements. Ceux qui parlent sur le Coran, ceux qui parlent sur la Sunna, en essayant de tromper la masse, ils détournent l'essence qu'Allah Azza wa Jal a voulu, ou ils détournent l'essence que le prophète sallam a voulu, en trompant la masse, en utilisant les versets équivoques, à la manière des gens de la passion. Ben, parmi les actions et les missions des savants, le fait de réfuter ces gens, afin que la vérité reste claire pour les musulmans. Puis l'auteur nous montre, puis l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous montre que les gens d'innovation ne se contentent pas d'innover dans la religion d'Allah et d'égarer les musulmans. Mais ils déclarent la guerre aux gens de la sunna afin de pouvoir propager ces innovations. Il nous dit « Alladhina aqadu alwiyat al-bid'ah ». Al-liwa, c'est l'étendard qu'on lève dans la guerre. Le signe qu'on lève dans la guerre. Donc ces gens-là combattent les gens pour leurs innovations. Si tu leur démontres que cette chose est une innovation qui n'a pas de preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna, ils te détestent. Ils aimeraient que tu ne puisses plus parler. Ils aimeraient t'enlever de ton poste afin que tu ne puisses plus dire la vérité aux musulmans. Car leur cœur est rattaché à cette innovation. Leur cœur n'est pas rattaché au Coran, n'est pas rattaché à la Sunna. Ils font l'alliance et le désaveu sur ces innovations. C'est pour ça que pour eux, l'ennemi est celui qui a de la science, de la Sunna, qui démontre cette science et qui dévoile l'innovation des innovateurs. Puis l'auteur nous dit وَأَطْلَقُوا عِنَالَ الْفِتْنَةِ. Ces gens-là sont des gens à problème, des gens qui sèment le désordre sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِي الْكِتَابِ مُخَالِفُونَ لِلْكِتَابِ مُجْمِعُونَ عَلَى مُفَارَقَةِ الْكِتَابِ. Ces gens-là n'ont rien à voir avec le livre. Ils ne suivent pas le chemin du Coran. Ils suivent le chemin dicté par leur passion ou par leur chair, leur voix innovée. Ces gens-là contredisent le Coran et ne se contentent pas de suivre ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils parlent de l'islam et du Coran sans la moindre science. Ils se sont tous réunis, donc tous les innovateurs ont un point commun, lequel ils se sont tous unis dans le faux et ont fait scission avec le chemin de la droiture, le chemin dicté par le Coran. Ils peuvent avoir des concordances avec le Coran, mais ne veulent pas suivre le Coran pleinement. Ils veulent suivre l'innovation, le chemin innové. Et parmi les choses étonnantes, ces gens-là sont tous divisés. Ils parlent sur Allah Azza wa Jal en mentant sur Allah. Ils parlent dans ses noms, dans ses attributs, ils disent sur lui ce qu'Allah n'a pas révélé, ce que le prophète sallam n'a pas transmis. Ils mentent sur le Coran. Ils parlent avec des paroles équivoques afin de tromper la masse, afin de pouvoir propager le faux. Ils rusent et trichent. Wa yakhda'una juhal an-nas bima yushabbihuna alayhim. Par contre, ces gens-là ne s'entendent pas. Chacun suit un shir, hein? Chacun suit une voie. Comme chez les soufis par exemple, ils ont chacun un maître et chaque maître dit que c'est moi que vous devez suivre. Moi j'ai rêvé du prophète sallam. L'autre dit non, c'est moi j'ai rêvé du prophète sallam. L'autre dit non, c'est moi le dernier des saints. Et l'autre dit telle parole. Et ils se rendent mécréants les uns les autres, les gens de l'innovation, égarés les uns les autres. Par contre, ils s'unissent dans un moment. Lequel ? Pour combattre les gens de la Sunna. Le seul moment où tu les trouveras unis, c'est pour combattre les gens de la Sunna. Tu trouves qu'un tel suit l'Ikhwan al-Muslimin, un tel Jamaat al-Tabligh, un tel Kada, un tel Kada, un tel Kada. Par contre, lorsque ils peuvent nuire à quelqu'un de la Sunna, ils s'unissent et complotent contre lui. Mais ils ont oublié une chose. C'est que sahib sunna, al-amil bi sunna, al-mutamassik bi sunna, Allah subhanahu wa ta'ala ma'ahu wa nasirun lah. Ils ont oublié que celui qui est cramponné à la sunna, qui marche sur les traces du prophète sallam, celui qui appelle les gens à revenir à Allah et à la sunna du prophète sallam, il n'est pas seul, même si eux sont unis. Il n'est pas seul, il est avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah le secours et l'élève. Et élève sa voix et son prêche, même s'il est seul contre un pays entier. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a enduré devant combien de personnes? Subhanallah. Le juge disait au gouverneur, ô gouverneur, tue-le et son sang est sur mon dos. C'est moi qui porte la responsabilité auprès d'Allah. Subhanallah. Ils ont essayé d'assassiner l'imam Ahmed tellement que sa science était trop difficile pour eux. Ils ont tous débattu avec eux, personne n'a réussi à démontrer son égarement, car il était sur la vérité, car il ne parlait qu'avec le Coran et la Sunna et le chemin des compagnons. Au point, ils ont essayé de l'assassiner, ils ont menti sur lui, ils ont fait pareil avec l'imam Ahmed, avec l'imam Ibn Taymiyyah, avec l'imam Ibn Taymiyyah, avec l'imam Ahmed Ibn Abdul Wahhab et avec d'autres parmi les savants d'Ahl Sunna. Ils mentent sur eux, ils essayent de ruser, ils essayent de tromper, ils essayent de monter la masse contre eux. S'il n'arrive pas, alors le gouverneur. S'il n'arrive pas, alors il trompe les gens. Subhanallah. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, les secours. Pourquoi ? In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous secourez Allah, c'est-à-dire le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous secourera. Hada sirrul mas'ala. La tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Celui qui secourt la religion d'Allah, celui qui apprend la science, la met en pratique, appelle les gens à cette science, qui est véridique avec Allah tabaraka wa ta'ala, n'a rien à craindre des gens de l'innovation. Ils ne pourront rien te faire. Et wallah. Car toi, tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux sont avec qui? Avec des créatures mortelles, faibles, qui sont nées hier et qui vont mourir demain. Ils ne peuvent rien contre toi tant que tu te cramponnes au Coran et à la Sunna sur le chemin des pieux prédécesseurs. Mais sache que la réussite, elle est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle ne repose pas sur tes épaules, sur ta force, sur ton intelligence. C'est pour ça que l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala à la fin a attiré notre attention sur cela en disant « وَنَعُوذُ بِاللَّهِ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتَنِ الْمُضِلِّينَ » Et c'est auprès d'Allah que nous cherchons ماذا protection contre les troubles des égards. La protection se recherche auprès d'Allah. Al-isti'adha, c'est al-iltija wal-i'tisam billahi azza wa jalla. Al-isti'adha, c'est le fait de rechercher la protection auprès d'Allah. Tu es dans un temps où il y a des fitaines, des troubles. Tu ne pourras être sauvé, être saint et atteindre ton but si ce n'est avec l'aide d'Allah. Donc sans cesse recherche le refuge auprès d'Allah et demande à Allah Azza wa Jal de te préserver de tous les troubles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait sans cesse Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir cela. Et Allah dit en Coran wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Donc l'auteur a fini ce chapitre avec la khutbah de l'imam Ahmed pour nous montrer que parmi les actions des imams, les actions des savants, le fait de réfuter les gens de l'innovation, de dévoiler les gens de l'innovation. Puis, il est entré dans un chapitre qui a la plus grande importance jusqu'à la fin du livre. Ce chapitre nous montre les causes du bonheur. Comment être heureux de par la pratique de l'islam? Comment rencontrer Allah Azza wa Jal, le visage resplendissant? Il nous dit, rahimahullah ta'ala, fasl, ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له لذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه الضال ذلك وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور. ابن القيم رحمه الله تعالى نجي. Et parmi les choses dont il convient d'être avisé, de connaître et de focaliser son attention et sa volonté, il y a le fait de savoir que chacun, voire même chaque animal, agit de façon à pouvoir profiter d'une jouissance, d'un bienfait et d'une bonne vie. Cette quête est légitime et compréhensible. Donc Ibn Qayyim nous dit que tout le monde, chaque homme, chaque femme, chaque djinn, même chaque animal, dans ce bas monde, recherche le bonheur. Toute personne est à la recherche du bonheur. Comme Abi Ibn Qayyim, même chaque animal. Il manque une traduction. وَيَنْدَفِعُ بِهِ عَنْهُ أَبْضَادَ ذَلِكَ. Allahu alam, le sens c'est donc il recherche le bonheur, le bien, la jouissance et le plaisir, et à repousser tout ce qui pourrait contredire cela. On vous rajoute, donc il cherche le bien, le bonheur et ainsi de suite. Tout comme il cherche à repousser de lui tout ce qui pourrait contredire cela. C'est-à-dire le mal, tout ce qui pourrait venir à l'encontre de son bonheur et son plaisir. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit tout cela ne pourra avoir lieu sans six choses. Il faut concrétiser six points pour pouvoir atteindre le bonheur. أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي يحصل له أو يحصل له لذة وفرحه وسروره وطيب عيشه.
طيب الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث سلوك تلك الطريق. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلك أفضت به إلى ذلك. السادس تجنب سلوكها. فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسرور وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته.
Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit donc qu'il faut six points pour concrétiser le bonheur. Le premier point, connaître ce qui est utile pour l'homme, favorable et qui est en mesure de lui procurer la jouissance qu'il recherche, sa joie, son allégresse et son bien-être. Donc le premier point, c'est de savoir ce qui est bien pour toi, ce dans quoi il y a le bonheur. Le deuxième point, connaître la voie qui mène à cet objectif, c'est la science du chemin à emprunter pour pouvoir obtenir le bonheur. Le troisième point, connaître ce qui est, ou bien emprunter cette voie. Donc c'est l'irada, la volonté, la détermination afin d'emprunter cette voie. Car certaines personnes connaissent le bien, savent comment y accéder, mais ils sont prisonniers de leur passion. Donc ils n'arrivent pas à faire ce dans quoi il y aura leur bonheur. Quatrièmement, connaître ce qui est néfaste, nuisible et qui est susceptible de nous empoisonner la vie. الرابع معرفة الضار طيب. Quatrièmement, cinquièmement et sixièmement, c'est le fait de connaître le contraire afin de pouvoir s'en préserver. Donc tu connais le bien pour pouvoir le mettre en pratique, mais aussi tu dois connaître le mal pour pouvoir t'en préserver. Le quatrième, connaître ce qui est néfaste, nuisible et qui est susceptible de nous empoisonner la vie. Le cinquième, connaître la voie y menant, la voie qui emmène au mal. Si elle est empruntée, nous causera tous ces désagréments. Le sixième, éviter d'emprunter cette voie. Donc tu ne dois pas te contenter d'apprendre le bien, tu dois également apprendre le mal pour pouvoir t'en préserver. Comme a dit le poète, عَرَفْتُ شَرَّ لَا لِشَرِّ لَا كِنْ لِتَوَقِّهِ. J'ai connu le mal, non pas pour le mal en soi, mais pour pouvoir m'en préserver. Ce sont là six conditions sine qua non. L'homme ne peut connaître jouissance, plaisir, allégresse et bien-être sauf s'il s'efforce de toutes les unir. Et si un de ces points venait à manquer, cela aurait pour lui de mauvaises répercussions et il en serait affligé. Donc ces six points sont à connaître. Tu dois connaître le bonheur. Tu dois connaître le chemin qui y mène. Tu dois emprunter ce chemin. Tu dois aussi connaître le malheur, tout ce qui t'apporte nuisance. Tu dois connaître le chemin qui fait tomber dans le mal. Et tu dois t'éloigner de ce chemin. Tout individu,
wa kullu aqilin yas'a fi hadhihi al-umur, lakin aktharu an-nas ghalita fi tahsil hadha al-matlub al-mahbub an-nafi', imma fi 'adami tasawwurihi wa ma'rifati wa imma fi 'adami ma'rifati at-tariq al-musilati ilayhi. فهذان غلطان سببهما الجهل ويتخلص منهما بالعلم وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين إما حب متعلق وإما فرق أي خوف مزعج.
Ibn Qayyim رحمه الله تعالى nous dit, après nous avoir cité les conditions du bonheur, tout individu raisonnable, doué de raison, prendra soin d'observer ces directives. Mais la plupart des gens se fourvoient dans la quête de cet objectif bien-aimé et si utile, soit parce qu'ils ne sont pas en mesure de le concevoir et n'en ont aucune connaissance, soit parce qu'ils ignorent le chemin y menant. L'ignorance est la cause de ces deux erreurs. La science nous permet de nous en débarrasser. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, toute personne douée de raison doit chercher son bien. Il connaît le bien, il connaît le chemin y menant, donc il l'emprunte. Car le bonheur ne peut s'obtenir qu'avec ses causes. Mais la plupart des gens ont emprunté un chemin erroné quant à l'obtention du bonheur. Donc certaines personnes, par exemple, vont courir derrière des passions à la recherche du bonheur. L'argent, les femmes, les voyages, le pouvoir, quitte à transgresser les limites d'Allah. Par ces passions, ils trouvent leur malheur. Alors qu'à travers cela, ils recherchaient quoi à la base ? Le bonheur. Ils volent d'un péché à un autre. Tombent d'un péché à un autre. Tout cela, la recherche du bonheur. Cette même cause devient le titre de leur malheur. Dans ce bas monde, et pire encore dans l'au-delà, si Allah Azza wa Jal ne les guide pas. Donc, ils n'ont pas eu la bonne conception du bonheur. Soit car ils ont ignoré ce dans quoi résidait le bonheur, soit car ils ont ignoré le chemin emprunté pour l'atteindre. Donc, quel est l'empêchement ici devant le bonheur? C'est le jahl, c'est l'ignorance. Donc, le remède ici, c'est quoi? C'est l'ilm, c'est la science. Donc, on se soigne de ces deux maladies avec quoi? Avec la science. Puis l'auteur nous dit, il se peut qu'il ait connaissance de ce qu'il recherche et qu'il connaisse le chemin y menant, mais son cœur est hanté par des envies et des pulsions qui l'empêchent de tendre vers ce but et d'emprunter la voie qui y mène. Il est noyé dans ses passions. Il penche vers le haram. Alors, malgré le fait qu'il connaisse le bonheur et comment l'atteindre, il n'arrive pas. Car il est emprisonné par ses passions qui se mettent entre lui et son bonheur. Il vole, il se drogue, commet la fornication, il ment, il opprime les serviteurs d'Allah. Il reste avec des femmes en dehors du mariage. Puis il se dit, je suis dans le haram. Je n'aurai jamais le bonheur ainsi. Il me faut donc me repentir, délaisser tout ça et aller vers Allah. Et à chaque fois qu'il tente de se repentir et d'arrêter tout ça, ses passions le rattrapent. Ses passions le remettent dans cette prison. Esclave de ses passions. Serviteur du shaitan et de ses passions. Prisonnier des griffes du shaitan, des chaînes du shaitan. Il se dit, je cours à ma perte. Il faut que je revienne vers Allah. Il faut que je revienne au masjid. Il faut que je reprenne de bonnes fréquentations. Mais à chaque fois qu'il tente de faire cela, il est alourdi par ses péchés. Il est alourdi par ses passions. Et il voit pour lui ce pas qui le mène au bonheur comme une montagne qu'il porte sur son dos. Il n'arrive pas à revenir vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Ses passions sont trop fortes. Il n'arrive pas à faire devancer le bonheur réel et éternel qui se trouve dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et sa connaissance. Il n'arrive pas à préférer cela à ses passions. L'auteur nous dit ensuite, or l'homme ne peut délaisser ses passions et donner la priorité à son objectif, donc le bonheur réel, si ce n'est par l'un de ces deux moyens. Donc Ibn Qayyim nous donne la solution à ceux qui se sont trouvés emprisonnés par leur passion. Il dit, tu ne pourras jamais te délier de ces chaînes, des passions, des pulsions, si ce n'est avec deux choses. Hubbun muta'alliqun wa faraqun muz'ij. Ma'ana al-faraq al-khawf. Donc la première cause, un amour préoccupant. Un amour, qui prend tout ton cœur, qui occupe tes pensées. L'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cet amour va te distraire de ses passions. Car tu auras peur de perdre cet amour, ou d'être préoccupé de cet amour. La deuxième chose, une peur dissuasive. Donc avec un amour complet et une peur totale, tu pourras te délier de tes passions. C'est ça le remède. Cet amour va te diriger vers ton paradis, vers Allah Azza wa Jal, vers l'obéissance d'Allah. Car ce que tu aimes, tu vas vouloir te rapprocher de lui. Deuxièmement, donc ça c'est devant toi. Al-mahab, al-hub qa'id. Deuxièmement, il y a une chose aussi derrière toi qui te rattrapera et qui te fera rattraper les gens lorsque tu seras en retard. C'est quoi? C'est la peur d'Allah. Lorsque tes passions vont venir te tirer dans le haram, tu vas te rappeler Allah. Tu vas te rappeler l'enfer. Tu vas te rappeler le châtiment. Tu vas te rappeler le jugement yom al-qiyam. Tu vas te rappeler que si tu désobéis à Allah Azza wa Jal et tu obéis à tes passions, tu auras à répondre de tes actions. Tu vas te rappeler qu'Allah te voit et te surveille. Ainsi, avec ces deux choses-là, tu vas pouvoir te libérer de tes passions. Donc, dans le cas où les passions ont pris le dessus sur le serviteur, il doit concrétiser ces deux choses. Puis l'auteur dit فَيَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَ وَالْجَنَّةُ وَنَعِيمُهُ وَنَعِيمُهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ هَذِي الشَّهَوَاتِ. Donc, on doit retenir les causes du bonheur. Et celui qui a été fait prisonnier de ses passions doit savoir quelles sont les causes pour se délier, pour s'en délier. Il lui faut, Ibn Qayyim nous dit, فَيَكُونُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ وَالْجَنَّةُ وَنَعِيمُهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الشَّهَوَاتِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا فَيُؤْثِرُ أَعْلَى الْمَحْبُوبَيْنِ عَلَى أَدْنَاهُمَا. Donc Ibn Qayyim nous dit, en ayant cet amour et cette crainte, ainsi Allah, son messager, l'au-delà et le paradis, ainsi que ses délices, lui seront préférables à toutes ses passions. Il va préférer Allah, il va préférer le messager, il va préférer le paradis, il va préférer les délices du paradis à tout ce qu'il y a dans ce bas-monde. À tout ce qu'il y a dans ce bas-monde, comme passion. Et il saura également qu'il ne lui est pas possible d'unir entre ses passions qui causent la colère d'Allah et le chemin qui mène à l'agrément d'Allah. Il devra faire un choix. Il devra faire un choix. Alors, il fera devancer ce qu'il aime le plus. Et cet homme a rempli son cœur de l'amour d'Allah. Alors, il va choisir Allah et délaisser ses passions. Cet homme a préféré le chemin du prophète sallam. Alors, il va suivre le prophète sallam et délaisser ses passions. Cet homme a préféré le paradis et ses délices. Alors, il va préférer le paradis et délaisser ses passions. Donc, ça, c'était le premier point. C'est-à-dire hubbun muta'alliq, un amour préoccupant son âme. Puis il nous explique le deuxième point, faraqun muz'ij, une crainte qui dissuade la personne. Wa imma an yahsul lahu 'ilmu ma yatarattabu 'ala ithar hadhihi ash-shahawat min al-makhawif wal-alam allati ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. Ibn al-Qayyim ici nous cite vraiment le remède à toutes ces passions. Combien sont ceux qui disent je tombe dans tel péché, je n'arrive pas à m'en sortir, je n'arrive pas à m'en repentir. J'aime telle femme, j'arrive pas à m'en séparer. Je vends de la drogue, je n'arrive pas à arrêter. Je délaisse les salats au masjid, je reste avec mes fréquentations, je n'arrive pas à arrêter. Ici Ibn al-Qayyim donne le remède à tout ça. Ici, Ibn al-Qayyim nous donne le remède. Comment revenir à l'istiqama? Il nous dit le deuxième moyen, donc, qui va nous permettre de nous délier de nos passions est en prenant connaissance des conséquences dues à l'inclinaison aux passions et ce qu'elles représentent comme frayeur et souffrance. Donc, l'homme doit savoir que s'il ne délaisse pas les passions et continue dans le haram, il y aura des conséquences. Il n'aura plus la sécurité. Et il aura des douleurs, des frayeurs, des malheurs et de grandes douleurs. Et la douleur qu'il aura dans la désobéissance d'Allah et dans le fait d'avoir assouvi ses passions et ses désirs, ces douleurs-là seront plus lourdes, plus fortes et plus durables que la douleur qu'il aurait eue à délaisser le péché. Car celui qui se sépare du péché, de la passion, celui qui par exemple aime une femme dans le haram, s'il s'en sépare, il va avoir mal. Certaines personnes pleurent même. Certains frères sont venus nous voir et nous disent « Je pleure la nuit, subhanallah ». Ils pleurent pour une femme dans le haram. Une femme qui peut le faire entrer, fi jahannam, il pleure pour elle. Une femme qui est née hier, qui va mourir aujourd'hui, une femme qui rentre aux toilettes, il n'arrive pas à s'en séparer. Une femme qui est remplie de défauts, il n'arrive pas à s'en séparer. Une femme qui ne se préserve pas du haram, il n'arrive pas à s'en séparer. Subhanallah, il pleure pour elle. Il ne dort pas pour elle. A'ouzou billah. A'ouzou billah. Alors qu'Allah lui a permis le mariage. Donc cette personne, sans aucun doute, a une douleur à délaisser le haram. Ibn al-Qayyim nous dit, certes, mais sache que la douleur à commettre le haram est bien plus difficile et bien plus douloureuse que la douleur à te séparer et ne pas commettre le haram. Vous avez compris? La personne dit, moi ça me fait mal de les laisser le haram. J'ai envie de voler pour avoir l'argent. On lui dit, ne vole pas, si tu voles, tu vas avoir encore plus mal. Il dit, moi j'ai envie d'aller avec les femmes. Et de me séparer des femmes, ça me fait mal. On lui dit, c'est parfois des femmes. Car la douleur à être avec les femmes est plus douloureuse que le fait de rester. Et ainsi de suite. Il dit, moi je me fais beaucoup d'argent en vendant de la drogue. On lui dit, arrête, car la douleur qui va venir après avoir fait cette action est plus douloureuse que le fait de délaisser le haram pour Allah subhanahu wa ta'ala. Plus douloureuse et plus durable. Tu ne peux pas unir entre eux ce qui plaît à Allah et ce qui cause la colère d'Allah azza wa jalla. Tu dois donc te séparer de la plus grande des deux douleurs. La plus grande des deux douleurs, c'est le fait de faire le haram. Alors sépare-toi du haram. Celui qui réellement a préféré Allah, a préféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a préféré le paradis, ne pourra pas s'arrêter pour une passion éphémère et accepter d'avoir un retard et d'être parmi les retardataires chez Allah azza wa jalla. Comment est-ce qu'une femme, de l'argent, de la drogue ou du haram pourrait te mettre en retard devant Jannah? Comment est-ce que tu pourrais accepter que les autres te devancent chez Allah, soient plus haut que toi, fil Jannah? Pourquoi? Car tu as accepté de t'arrêter pour une passion. Le plaisir qu'il obtiendra dans cette passion, il est éphémère, il s'arrête dans l'instant même. Il va commettre le haram, après le haram, cette passion, ce plaisir disparaît. Mais reste la douleur, reste le regret, reste l'humiliation, reste la honte. Et si Allah Azza wa Jal ne le guide pas et ne lui permet pas de se repentir, le pire est à venir, yawm al-qiyam, lorsqu'il rencontrera Allah, le Seigneur des mondes. Tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui est doué de raison choisira le plus grand plaisir, donc Allah, pour avoir le paradis, et choisira de supporter la chose la moins douloureuse, c'est-à-dire la séparation du péché. Donc il doit faire un choix entre sa passion, Allah et le paradis. C'est quoi la chose qu'il aime le plus? Ça doit être Allah et le paradis. Lui, il doit faire un choix dans ce qu'il va supporter comme difficulté. Soit il choisit de supporter la difficulté due à la séparation du péché, Soit il choisit de supporter la difficulté due au fait de faire les péchés. Donc il va choisir Allah, ce qu'il aime le plus, et il va choisir de supporter la séparation du péché, car c'est moins douloureux que les effets des péchés. Donc l'auteur nous dit ces souffrances. Ces souffrances sont du reste plus intenses et durables en comparaison à ce qu'il aurait enduré, à ce qu'aurait enduré l'homme en manquant d'assouvir ses passions. Et si l'homme permet à son cœur d'assimiler ces deux notions, il en résultera ceci. Il optera toujours pour le choix qu'il convient d'adopter. Il donnera toujours la priorité sur l'autre lorsqu'il se présente. Allez, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc la personne douée de raison, celui à qui Allah Azza wa Jalla a voulu le bien, il va choisir le paradis et délaisser le péché. Et il va choisir de supporter la séparation du péché plutôt que de choisir la douleur due au fait de commettre les péchés. Plus l'auteur, rahimahullah ta'ala, après cela, en se comportant de la sorte, l'homme adopte une ligne de conduite. Lorsque les deux choix se présentent, il opte pour celui dont les retours lui sont préférables et le fait prévaloir sur ceux qui l'est moins. De même qu'il choisira d'endurer le moindre des deux désagréments qu'il rencontrera pour se défaire du plus important. C'est par cette pratique que prend forme la spécificité de la raison. C'est dans ces choix, dans ce genre de dilemme, que tu vas reconnaître celui qui est doué de raison, celui qui est véritablement intelligent. Hein? Car l'intelligence ne se manifeste pas dans le fait de connaître le bien du mal, mais elle se manifeste réellement lorsque la personne arrive à distinguer entre le meilleur du bien et le pire du mal. Tu as le choix entre deux biens. C'est qu'il vraiment... Comment est-ce qu'on va vraiment voir celui qui est intelligent? C'est celui qui va choisir le meilleur. Ensuite, il y a un mal et il y a pire. Il va choisir de supporter le mal pour ne pas avoir à supporter le pire. C'est ainsi que tu vas reconnaître ceux qui sont intelligents. À partir de là, il t'est possible d'évaluer la raison de chacun, comme il t'est possible de distinguer une personne raisonnable d'une autre qui ne l'est pas. Le contraste existant entre les raisons des hommes se dévoile au grand jour. وبهذا الأصل تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره ويظهر تفاوتهم في العقول فأين عقل من آثر لذة عاجلة منغصة منكدة إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف تمتع به من زاره في المنام أو زاره ما أدري في المنام على لذة هي من أعظم اللذات وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحي من نفسه وعقله فكيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سبحان الله ابن القيم رحمه الله تعالى نجي après cela. En effet, quelle raison posséderait l'homme qui donne la précédence à une jouissance éphémère? Yani, quelle raison aurait l'homme qui aura choisi le péché et délaissé Allah et le paradis, qui aura choisi de supporter une difficulté éternelle à la difficulté du délaissement du péché? Quelle raison posséderait l'homme qui donne la précédence à une jouissance éphémère, naturellement mêlée d'amertume et d'aigreur? Cette jouissance est à l'image d'un rêve furtif ou d'un songe qui viendrait agiter une personne venue le visiter durant son sommeil. Quelle raison posséderait l'homme qui préférerait cette jouissance éphémère à l'une des plus sublimes jouissances, à sa joie et à une allégresse qui n'a pas d'équivalent, qui ne cesse de se perpétuer sans jamais prendre fin, et n'est ni évanescente ni ne meurt? Comment peut-il monnayer une telle jouissance par une autre qui est sur le point d'expirer et vouée à disparaître, qui ne contient que souffrance, qui n'a été acquise que par souffrance et dont la finalité n'est que souffrance? Yani, comment est-ce que tu pourrais choisir la dunya, les passions, la désobéissance à Allah Azza wa Jal, alors que le plaisir, premièrement, est éphémère, pas durable, et en plus de cela, c'est un plaisir qui n'est pas complet, qui est rempli de défauts? Comment tu pourrais choisir cela au dépens d'un au-delà parfait, durable, qui ne s'arrêtera jamais? Puis il nous dit, comment peut-il monnayer une telle jouissance par une autre qui est sur le point d'expirer et vouée à disparaître, qui ne contient que souffrance? Donc la personne, pour obtenir et assouvir ses passions, avant de le faire, elle souffre. Car elle veut l'obtenir, elle souffre. Elle n'endort pas. Elle est mal et ne trouve pas le repos à cause de cet envie. Au moment où elle commet le péché, également elle souffre. Après avoir fait le péché, elle souffre. Et la finalité de tout cela ne sera encore que souffrance. Si l'homme sensé, donc doué de raison, venait à comparer la jouissance qu'il tire d'un tel plaisir à la peine qu'elle suscite et ses nuisances et ses avantages, il aurait honte de lui-même. Il y a ni l'homme qui compare le plaisir qu'il va obtenir en faisant le haram et le mal qui en résulte, en comparant et en pesant ces deux choses-là, il aurait honte de lui-même. Il aurait honte de lui-même de faire cela et d'avoir pensé à faire cela. Et rougirait à la vue de sa raison. Il se rendrait compte qu'il est tombé dans la bêtise totale. Il trouverait absurde de se mettre à la quête de cette jouissance et de dilapider son temps à s'en occuper. Et à plus forte raison, de la préférer au plaisir que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a entendu et que personne n'a jamais imaginé. Mais comment est-ce que tu peux préférer toutes ces choses imparfaites au paradis qu'Allah Azza wa Jalla a créé? Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: وقد اشترى سبحانه من المؤمنين انفسهم وجعل ثمنها جنته واجر هذا وجعل ثمنها جنته واجر هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه فسلعة رب السماوات والارض مشتريها والتمتع بالنظر الى جنة إلى وجهه الكريم وسمع كلامه منه في داره ثمنها ومن جار على يد العقد رسول فكيف يليق بالعاقل أن يضيع ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية وهل هذا إلا من أعظم الغبن أو الغبن وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: Or, Allah a acheté des croyants leurs âmes et a fait du paradis son prix. Il a mandaté pour la conclusion de ce contrat de vente son messager et a mis en team le meilleur d'entre ses créatures. Une marchandise dont l'acheteur est le Seigneur des cieux et de la terre, et dont le prix est la jouissance de regarder son noble visage et d'entendre sa parole dans sa demeure éternelle, et où l'exécuteur du contrat est son messager. Conviendrait-il à l'homme raisonnable de dilapider et de brader cette marchandise à un prix dérisoire, dans ce monde éphémère, évanescent et voué à disparaître? Et n'est-ce pas là une vente des plus injustes, où il y a la plus grande perte? Mais cette vilaine injustice se manifestera, donc cette grande perte se manifestera le jour de la résurrection, le jour où les œuvres des pieux pèseront lourd sur la balance, alors que celles des des gens du faux ne seront que légères. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fait référence au verset dans surat At-Tawbah, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous dit: Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Al-Ayat. Donc dans surat At-Tawbah, verset 111. Ibn al-Qayyim nous dit: Or, Allah a acheté des croyants leurs âmes. Donc il y a celui qui achète, la chose qui a acheté, le prix de la vente, et celui qui a été mandaté pour conclure la vente. Qui est celui qui a acheté? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a acheté? Nos âmes. Contre quoi? Le paradis d'Allah. Qu'est-ce qu'on t'a envoyé pour conclure la vente? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui achète, c'est le plus riche. Celui qui ne manque jamais à sa promesse. Ce qu'on t'offre en face de cela, c'est quoi? C'est le paradis. C'est de voir Allah, tabaraka wa ta'ala, d'entendre sa parole, azza wa jalla. Et celui qu'on a chargé pour cela, c'est le digne de confiance, al-ami, le propre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Conviendrait-il à l'homme raisonnable de perdre cette vente et d'échanger cela contre la dunya? Subhanallah. Allah Azza wa Jal te dit: obéis-moi, suis le prophète Arsène et je te ferai rentrer au paradis. Tu auras tout ce que tu veux. Et le summum du plaisir au paradis, c'est le fait de contempler le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais pour ce faire, il te faut agir dans ce bas monde. Délaisser les passions et délaisser le haram. Et le jour où on va voir vraiment la grande perte, c'est Yom Al-Qiyam, quand la balance des gens pieux sera lourde et la balance des autres sera légère. Comme Allah Azza wa Jal nous dit en surat Al-Mu'minin, Al-Mu'minun, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Quant à ceux qui auront la balance, les balances lourdes, voici ceux qui seront les bienheureux. Quant à ceux qui auront les balances légères, voici ceux qui auront perdu en enfer. Et ils demeureront éternellement. Donc Yom Al-Qiyam a parmi ces noms At-Tarab, le jour de la grande perte. Car les gens vont regretter ce qu'ils ont fait dans ce bas monde, vont regretter de ne pas avoir adoré Allah Azza wa Jalla, vont regretter d'avoir donné des égaux à Allah, vont regretter de ne pas avoir suivi le prophète, vont regretter de ne pas avoir préservé les prières à l'heure, vont regretter de ne pas avoir prié à la mosquée. La femme regrettera de ne pas avoir mis le hijab, de ne pas avoir obéi au prophète, de ne pas avoir pris comme exemple les femmes du prophète, de ne pas avoir obéi à son mari, de manière générale, regretter de ne pas avoir choisi l'agrément d'Allah Azza wa Jal à la recherche des passions. Même les gens pieux, certains d'entre eux vont regretter de ne pas avoir fait plus. Quand ils vont voir la récompense, ils vont regretter de ne pas avoir fait plus. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, as'allahu yuslihana. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala met cela en tant qu'introduction sur le bonheur. Puis nous définit dans quoi se trouve réellement le bonheur. En disant: إِذَا عَرَفْتَ هَذِي الْمُقَدِّمَةِ فَاللَّذَّةُ التَّامَّةِ وَالْفَرَحُ وَالسُّرُورُ وَطِيبُ الْعَيْشُ وَالنَّعِيمُ إِنَّمَا هُوَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ وَالْأُنْسِ بِهِ وَشَوْقِ إِلَى لِقَائِهِ وَاجْتِمَاعِ الْقَلْبِ وَالْهَمِّ عَلَيْهِ فَإِنَّ أَنْكَدَ الْعَيْشِ عَيْشُ مَنْ قَلْبُهُ مُشَتَّتْ وَهَمُّهُ مُفَرَّقْ فليس لقلبي مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه كما أفصح القائل عن ذلك بقوله وما ذاق طعم العيش من لم يكن له وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن فالعيش طيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين كما قال القائل نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يلفه الفتى وحنينه أبدا لأول المنزل فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده فهذا غاية السعادة العبد وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل كما قال بعض الواجدين أي ممن وجد هذه اللذة إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب وقال آخر إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا وقال آخر مساكن أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها فقيل له ما أطيب ما فيها قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه سبحان الله وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عين في الصلاة L'auteur nous dit, si ceci est acquis, alors la meilleure jouissance, la joie, l'allégresse, la vie agréable et les bienfaits, tout cela se trouve assurément dans la connaissance d'Allah. Ibn al-Qayyim nous dit, la base du bonheur. Et ce dans quoi se concrétise le bonheur, le début, le milieu et la fin du bonheur, c'est quoi? C'est ma'rifatullah, c'est la connaissance d'Allah. C'est la connaissance d'Allah. C'est at-tawhid, la concrétisation, la réalisation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est son intimité, le fait de se sentir proche d'Allah tabaraka wa ta'ala, en l'invoquant, en l'adorant, dans le désir ardent de le rencontrer. Tu es pressé de voir Allah, d'aller vers Allah. Alors tu fais les causes pour. Et aussi en appelant son cœur et en toute son attention et se réunir pour lui. Ibn al-Qayyim nous dit le bonheur, il est dans ça. Tu veux goûter au bonheur, tu veux être heureux à long terme, fi dunya wal akhirah, apprends qui est Allah. Apprends qu'Allah est parfait à travers ses noms, à travers ses attributs, c'est dans le Coran et la Sunna. Apprends qu'Allah tabaraka wa ta'ala est immense, c'est le plus fort, le plus grand, le plus généreux. C'est celui qui est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Quand il veut une chose, il dit sois elle. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui t'a créé. T'a donné la vie, le seul à pouvoir reprendre ta vie et te donner la mort. C'est le seul à pouvoir te faire entrer au paradis et te sauver de l'enfer. Tous les bienfaits dans lesquels tu te délectes, c'est Allah qui te les a donnés. Si ton cœur se remplit de ces connaissances-là, tu goûteras au bonheur. Le bonheur passe par tawhid, le fait de reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans toutes ses actions envers nous, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant. Donc tu l'unifies dans culte sincère. Tu n'adores que lui, tu n'aimes que lui, tu ne crains que lui, tu n'espères qu'auprès de lui. Tu te prosternes que pour lui, tu jeûnes que pour lui, tu ne pries que pour lui. Tu n'égorges les bêtes que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as peur que de lui. Lorsque tu fais une chose, tu le fais pour Allah. Tu la fais pour Allah. Lorsque tu la délaisses, c'est pour Allah. Tu avances ou recules pour Allah tabaraka wa ta'ala. Car tu as connu de sa beauté, de sa perfection, de sa force. Alors ton amour pour lui est complet et ta crainte immense. Alors tu ne cesses d'aller vers Allah azza wa jal avec ses sentiments du cœur et ses actions des membres. Si tu as cela dans ton cœur, alors tu goûteras au bonheur. Même si tu n'as rien dans ta poche, tu seras la personne la plus heureuse fil dunya et la plus élevée fil akhir. Contrairement à celui qui est dans le shirk, il a perdu le tawhid. Cette personne-là ne sera jamais heureuse, même si elle a les poches pleines et a obtenu tout ce qu'elle voulait comme passion. Les gens désobéissent à Allah en allant d'une passion à une autre. Et au final, ils n'obtiennent jamais le bonheur. Wal'iyadhu billah. Donc tu dois faire en sorte que ton cœur penche totalement vers Allah tabaraka wa ta'ala si tu veux goûter à ce bonheur. Tu connais Allah à travers la lecture du Coran, à travers selon ses attributs, la lecture de la sunna, à travers selon ses attributs, également en méditant les créatures et la création. Certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit « Man kana billah a'raf, kana minhu akhwaf ». Plus la personne connaît Allah, certains parmi les pieux prédécesseurs disaient « Plus la personne connaît Allah, plus elle aura peur de lui ». Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a ajouté wa kana li ibadati atlab wa an ma'siyati ab'ad wa lima 'indahu atlab. Ou comme il a dit rahimahullah. Plus la personne connaît Allah, plus elle aura peur de lui. Et plus elle sera motivée dans son adoration et plus elle sera éloignée de sa désobéissance. Et la personne doit s'occuper de son cœur pour pouvoir avoir le bonheur. Car on a cité auparavant que le bonheur se résume en disant la tranquillité du cœur. La tranquillité du cœur s'obtient en ayant un cœur sain. Et le cœur ne pourrait pas être sain si ce n'est en ayant un cœur rempli de tawhid. Le cœur est nettoyé de toute souillure avec la connaissance d'Allah, avec le tawhid. Allah Azza wa Jalla a refusé que les gens puissent obtenir la tranquillité du cœur si ce n'est en allant vers lui, en ayant at-tawhid, avec les actions pieuses. L'auteur nous dit le fait d'espérer rencontrer Allah. Ash-shawq ila liqa'i. Le prophète sallam faisait du'a wa as'aluka ladhat an-nazar ila wajhik. Wa ash-shawq ila liqa'i. Le prophète sallam invoquait Allah tabaraka wa ta'ala et demandait à Allah azza wa jal d'avoir ce ressenti, c'est-à-dire espérer rencontrer Allah azza wa jal rapidement. Car la personne qui a ça dans son cœur, elle va faire les causes pour rencontrer Allah azza wa jal et avoir sa récompense et pouvoir contempler son visage. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith innakum satarawna rabbakum كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر أو شمس وقبل غروبها فافعلوا فذكر الشوق إلى لقائه ثم ذكر السبب فمن اشتاق إلى نظر وجه الله عز وجل بذل السبب. Donc tu dois espérer rencontrer Allah Azza wa Jal. Dans cela, il y aura ton bonheur. Car celui qui veut cet honneur va faire les causes pour l'obtenir. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit assurément, vous rencontrerez votre Seigneur. Vous verrez votre Seigneur. Tout comme vous regardez la lune les soirs de pleine lune ou les jours de pleine lune. Donc si vous avez la capacité de ne pas rater la prière avant le lever du soleil ni la prière avant le coucher du soleil, c'est-à-dire le fajr et le asr, faites-le. Remarquez ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la vision d'Allah. Donc de ce grand plaisir, de ce grand bonheur. Puis il nous parle de la prière du Fajr et du Asr, les meilleures prières. Hein? Les meilleures prières. Le prophète sallam nous dit, celui qui préserve le Asr et le Fajr, hein, sera préservé du feu de l'enfer. Et dans l'autre hadith, il aura le paradis. Et ça, c'est le faux. Donc le bonheur se concrétise en préservant les salawat, en obéissant à Allah Azza wa Jal, en ayant un tawhid. C'est pour ça que le prophète sallam nous a encouragé à faire les causes. Donc de préserver la prière du fajr et du asr, c'est une cause pour rentrer fil jannah et donc pour voir Allah tabaraka wa ta'ala. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعنا بنظر وجهه الكريم. في الأوتار رحمه الله تعالى ندي que la personne doit réunir tous les sens de son cœur vers Allah. Yani ton but dans dunya, ça doit être la recherche de l'agrément d'Allah. Ne divise pas ton cœur. Fais en sorte que ton cœur se dirige exclusivement vers Allah à la recherche de son agrément, si tu veux avoir le bonheur. Puis il nous dit, en effet, la vie la plus malheureuse est celle de l'homme dont le cœur est dispersé et l'esprit épars. Son cœur ne dispose d'aucun endroit où trouver stabilité, ni d'aucun bien-aimé auprès duquel il puisse se réfugier. La personne qui ne se dirige pas que vers Allah et ne recherche pas que l'agrément d'Allah, va courir de passion en passion, alors son cœur va se diviser. Il va aller vers telle passion, puis telle passion, puis telle passion, et il va épuiser son cœur à la recherche et l'assouvissement de ses passions. Donc il va souffrir à la recherche et l'assouvissement de ses passions. Et ces passions dans le haram, les passions qui sont dans le haram ne s'arrêtent jamais à une limite, n'ont pas de limite. Celui qui commet une fois le péché, il va vouloir le refaire. Il le fait à la recherche du bonheur, puis il le refait car il est dépendant pour se soigner. Puis il le refait, ça le détruit. Il prend une passion, son cœur brûle. Il se brûle en faisant le haram. Alors il va chercher une source d'eau pour pouvoir éteindre ses flammes. Et il va chercher cette source où? Dans le haram, un deuxième haram, puis un troisième. Puis ça va brûler encore plus. Alors il va chercher encore une source d'eau pour pouvoir éteindre ce haram. Et il ne fera que se brûler en allant d'un haram à un haram, de haram en haram. La seule chose qui peut éteindre les flammes dans ton cœur, éteindre les flammes qui brûlent tes vêtements et ta peau, et qui font que tu te consumes petit à petit, jusqu'à ce que la personne, wal'iyadu billah, finisse par être consumée en enfer, mais on lui redonne une peau pour qu'il continue à subir le châtiment. C'est quoi? C'est tawbatu ila Allah. Et méditer du'a al-istiftah, la du'a qu'on dit en commençant la salat. Tu invoques et tu demandes à Allah Azza wa Jal de mettre dans ton cœur de la neige, de l'eau et de la fraîcheur. Pourquoi? Car les péchés provoquent une chaleur dans le cœur de la personne. Une souffrance et une chaleur, elle se sent mal. Subhanallah. Et seul le retour vers Allah Azza wa Jal redonne la fraîcheur du cœur et l'apaisement de la poitrine. نستغفر الله ونتوب إليه puis l'auteur رحمه الله تعالى donc nous dit que ces gens-là ont le cœur dispersé, divisé, les cœurs des mushrikoun, les cœurs des associateurs, les cœurs des gens des péchés, ils ont le cœur divisé dans ses passions et dans le haram. C'est pour cela que Yusuf alayhi salam, lorsqu'il a fait da'wa à ses collègues de prison, il leur a dit quoi? Comment est-ce qu'on dit ça? Ses compagnons de prison, il leur a dit, Ya sahibai sijn, a arbabu mutafarriquna khayr amillahu al-wahidu al-qahhar. Ô mes compagnons de prison, est-ce que différentes choses que vous adorez, c'est mieux ou bien un seul Allah, l'unique, le dominateur? C'est quoi le mieux? D'essayer de satisfaire plein de divinités ou de savoir qu'on n'adore que Allah? T'obéis que à Allah, et il n'y a qu'Allah qui te récompense. Tu sais ce qu'Allah veut, alors tu le fais. Le chemin est tracé, il est unique. Ta divinité, elle est unique, c'est Allah, le seul qui mérite l'adoration. Ton messager, il est unique, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ton but, il est unique, c'est le Jannah. Est-ce que ça, c'est plus facile, ou bien d'adorer plusieurs divinités? Lui te dit, lève-toi, l'autre te dit, assis-toi. Hein? L'autre te dit, va à droite, et l'autre te dit, va à gauche. L'autre, si tu fais ça, il est satisfait toi, mais le deuxième, il est en colère. Tu ne sais plus quoi faire.
Sahih ?
Tu ne sais plus quoi faire. Alors qu'avec Allah Azza wa Jal, quand tu es un monothéiste, le chemin est tracé. La ligne de conduite est connue. Et la finalité, c'est Jannah. Ja'ana Allah wa iyyakum min ahli Jannah.
Puis l'auteur nous dit, comme l'a exprimé le poète de Magnon, de façon pardon, éloquente. Non, le goût de la vie, personne n'a dégusté. Qui n'a point d'amis où s'apaiser, se reposer. Il y en a celui qui n'a pas de personne vers qui revenir, où son cœur s'apaise, n'aura jamais goût au bonheur. Ainsi, la vie agréable dans laquelle on s'épanouit, le bonheur escompté, le plus haut degré de l'amour, tout cela se trouve dans la sérénité et la quiétude auprès du premier amour. Le bien-être, le bonheur dans la vie et la paix de l'âme résident donc dans le sentiment de quiétude et de sérénité qu'inspire le premier amour. Et si le cœur se dirigeait vers d'autres que celui à la recherche d'amants tels qu'ils soient, il n'y trouverait pas de sérénité, de quiétude ou le bonheur qu'il en escompte. Et ce jusqu'à ce qu'il revienne trouver auprès de sa divinité la sérénité qu'il est parti chercher vers d'autres amants, alors qu'il est son Seigneur et Maître, celui dont il n'a d'autre maître que lui, ni intercesseur, et dont il ne peut se passer, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Comme le disait le prophète sallam, Ya Hayyu Ya Qayyum. برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى طرفتي إلى نفسي طرفة عين. Le prophète sallam invoqué Allah Azza wa Jal, demandait de ne pas l'abandonner ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Hein? Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur des mondes, c'est le créateur de ces cœurs qui se trouvent dans nos poitrines. Ben sachez qu'Allah, le Seigneur des mondes, a décidé que ce cœur n'obtiendra pas la sécurité, la sérénité, le bonheur et l'allégresse si ce n'est en revenant vers Allah Azza wa Jal. C'est une chose qu'Allah a décrété, c'est comme ça. Donc tu veux le bonheur, il te faut connaître Allah. Tu veux le bonheur, il te faut invoquer Allah. Tu veux le bonheur, il te faut remplir ton cœur de tawhid. Donc, où que tu ailles, quelles que soient les choses que tu recherches, tu ne trouveras pas le bonheur, si ce n'est en revenant vers Allah Azza wa Jal, le seul duquel tu dois remplir ton cœur d'amour pour lui. Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad dit une belle parole ici, il dit « لِأَنَّ الرَّبَّ الْعَظِيمِ الَّذِي خَالَقَ هَذَا الْقَلْبُ وَأَوْجَدَهُ أَبَا أَنْ يَكُونَ لِلْقَلْبِ سُكُونًا إِلَّا بِعُبُودِيَّتِهِ الَّتِي خُلِقَ لِأَجْلِهَا إِلَّا بِالْعُبُودِيَّ الَّتِي خُلِقَ لِأَجْلِهَا. Le Seigneur immense, celui qui a créé ce cœur, a décidé que les cœurs ne pourraient trouver le repos si ce n'est dans son adoration pour laquelle ils ont été créés. Et c'est pour cela que les du'as de détresse sont toutes remplies de quoi? De tawhid. Da'watu dhinnun idhwa fi batni al-hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalim. Prophète sallam nous dit l'invocation de l'homme au poisson alors qu'il avait été avalé par le gros poisson. La ilaha illallah. Ne dis-moi, t'es né, digne d'être adoré, excepté toi. Exempté sois-tu, j'étais certes du nombre des injustes. Hein? Donc on voit que dans les du'as pour dissiper la tristesse, le malheur, il y a toujours du tawhid. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit. Et comme l'a dit le poète, que ton cœur aille où tu veux au gré de tes passions. L'amour, en vrai, est pour le premier amour. L'homme a beau résider dans tel ou tel séjour, ses sentiments seront toujours pour sa première maison. Aussi, tu dois veiller à n'avoir qu'une seule préoccupation, et que celle-ci soit Allah, lui seul,
car c'est là le comble du bonheur de l'homme. L'homme de cette situation vit une béatitude du paradis terrestre qui est mise à sa disposition avant celle du paradis éternel. Il goûte aux délices avant l'heure, comme l'ont dit certains dévots.
Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ici,
celui qui a ces qualités-là, l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de se sentir proche de lui en l'invoquant, en l'adorant, et en faisant en sorte que son seul but soit l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, arrivera à un tel niveau de bonheur, un tel niveau de béatitude, un tel niveau de délice et de ressenti dans son cœur, qu'il entrera alors dans un paradis qu'on lui a avancé dans ce bas monde avant le paradis qui lui a été promis dans l'au-delà. Subhanallah. Il va arriver à un niveau de bonheur tel qu'il va rentrer dans un paradis fid-dunya. Il va rentrer dans un paradis fid-dunya.
وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة.
Celui qui est ainsi sera dans un paradis avancé dans ce bas monde avant le paradis de l'autre, et dans un plaisir qu'on lui aura servi dans ce bas monde avant l'autre. C'est pour ça que certaines personnes qui ont ressenti cela ont dit: le cœur, où mon cœur connaît par moments, ou le cœur connaît des moments tels que j'en arrive à dire, si les gens du paradis connaissent ce même moment, ils profitent assurément d'une vie agréable. Yani, ces gens ont connu un bonheur tel dans ce bas monde, ils ont goûté à ce paradis cité par les savants, au point ils ont dit que si dans l'au-delà on se sent comme ça, alors subhanallah, dans l'au-delà ce sera une belle vie. Alors qu'il n'y a aucune comparaison, subhanallah. Un autre a dit: le cœur passe par des moments d'allégresse tels qu'il en danse de joie. Yani, mon cœur, tellement qu'il trouve son bonheur dans l'adoration d'Allah et dans le fait de me sentir proche d'Allah, que par moments il ne tient plus en place dans ma poitrine, subhanallah. Un autre dit encore: pauvre de ces gens attachés au bas monde, ils le quittent sans y goûter ce qu'il contient de plus délicieux. Et qu'est-ce que donc cela, lui demanda-t-on? Il répondit: la connaissance d'Allah et son amour, l'intimité de sa proximité et le désir ardent de le rencontrer. Il est plus à plaindre dans ce bas monde sont ceux qui ont été préoccupés par la dunya, sont morts et sont sortis de cette dunya sans avoir pu goûter au plus grand délice. Quel est le plus grand délice dans la dunya? C'est la connaissance d'Allah. Le fait de se sentir proche de lui à travers son adoration et le désir ardent de le rencontrer. Yani, des fois tu adores Allah tabaraka wa ta'ala, comme le citent les savants ou les adorateurs d'Allah, ceux qui ont connu cela. Ils disent: tu invoques Allah et ton cœur bouge et tu ressens un délice, c'est un goût plaisant comme le goût, yani un goût défini mais que tu ne pourrais pas décrire. Tu ressens un goût sur ta langue, dans ton cœur, dans tes membres. Et à chaque fois que tu ajoutes une adoration, cette intensité augmente. Ce goût augmente. Tellement que tu es proche d'Allah, tellement que tu connais Allah, tellement que tu es loin de sa désobéissance, alors tu as un goût immense dû à cette adoration et ce qu'on appelle Al-Uns Billah. Tu adores Allah, tu invoques Allah et tu te sens proche de lui. Et tu trouves ton plaisir dans cette adoration. Ibn al-Qayyim nous dit, en effet, écoutez ça, subhanallah. Il dit: fi dunya, il n'y a aucun plaisir qui ressemble ni ne se rapproche des plaisirs au paradis si ce n'est celui-ci. Le seul point commun qu'il y a dans dunya, entre dunya et l'au-delà, c'est le plaisir à ressentir, que tu ressens à travers le plaisir du tawhid et du fait de sentir proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, aucun délice de ce bas monde ne ressemble celui des gens du paradis, à mon avis, à celui des gens du paradis, sinon celui-ci. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: de votre monde il m'a été donné d'aimer les femmes et le parfum et de goûter au bonheur que j'ai escompté trouver dans la prière. C'est-à-dire, je trouve un plaisir dans les femmes, je trouve un plaisir dans le paradis, j'aime cela, mais le summum du bonheur, je l'ai trouvé dans la salat. Je l'ai trouvé dans quoi? Dans la salat. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il lui a été donné d'aimer deux choses de ce bas monde, les femmes et le parfum. Puis il a précisé que le plus haut niveau, il l'a trouvé dans quoi? Dans la, yani cet amour, il a été dans quoi? Il a été dans la salat. Donc il y a une différence entre le fait d'aimer et ce qu'on appelle qurratul ayn, qu'on traduit par la prunelle des yeux. Yani c'est un niveau plus élevé que le mot aimer. On s'arrête sur ça. Inch'Allah ta'ala, on reprendra probablement jeudi. On s'arrête sur cela et on reprendra probablement jeudi. Inch'Allah ta'ala. الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى ينفعنا بما سمعنا ويوفق العمل ما يحبه ويرضى ويزيدنا علما وعملا بعلمنا ويوفقنا إلى كل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا في الصيام، اللهم وفقنا في الصيام، اللهم وفقنا في الصيام، وافقنا للقيام، وافقنا اللهم للقيام، ويسر لنا إدراك ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.